De cause à effet, le magazine de l'environnement.
La nature peut-elle être un enfer? Loin de l'image bucolique dont nous avons tendance à user à l'évocation du mot nature et des tendances actuelles des citoyens à renouer avec elle, force est de constater que l'on évoque moins souvent les aspects nocifs de l'environnement. Et pourtant, de plus en plus d'espèces exotiques envahissantes altèrent cette biodiversité quand elles ne deviennent pas un handicap majeur pour les hommes dans leur vie quotidienne. Et la France n'échappe pas à ces nuisances, faune et flore confondues, avec des conséquences multiples. Dans le cadre de la coalition hashtag Sauver le Présent, qui, je le rappelle, réunit une fois par mois plusieurs médias, France Culture, Le Parisien, Aujourd'hui en France, la revue Ouzbek Erika est nouvellement arrivée dans l'équipe Sciences et Vie Junior, eh bien nous nous intéressons ce mois-ci à ces espèces invasives. Dossier complet à retrouver sur le site de notre émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Quelles sont les atteintes et les risques inhérents à ces espèces? Comment les gestionnaires des espaces naturels et les décideurs œuvrent-ils face à ce danger? De quelle manière les citoyens peuvent-ils être directement impactés et en quoi peuvent-ils être utiles? Réponse avec nos trois invités. Emmanuelle Sarah, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes de l'UICN, le Comité français Union internationale pour la conservation de la nature. Franck Courchamp à nos côtés, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écologue, directeur au CNRS, au laboratoire d'écologie systématique et évolution de l'Université Paris-Sud. Et vous êtes auteur notamment du livre L'écologie pour les nuls. Et on peut aussi renvoyer grandement à la bande dessinée commise avec
Mathieu Huguetti.
Voilà, La guerre des fourmis. Un livre paru aux éditions des Équateurs. Et puis avec nous, François Moutou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en liaison téléphonique avec nous ce soir. Et je rappelle que vous êtes docteur vétérinaire, épidémiologiste et naturaliste, ancien directeur adjoint du laboratoire santé animale de l'ANSES et auteur notamment du livre « Des épidémies des animaux et des hommes » paru aux éditions du Pommier. Et puis dans l'œil du monde planète, c'est Rémi Barou, journaliste de la rédaction des pages planète du journal Le Monde, qui nous livrera son choix info de la semaine. Il nous parlera d'un projet d'infrastructure, en l'occurrence le contournement de la RN88. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, toujours préparé par Anaï Morales, avec Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir Stéphane Poitevin.
Le blavet, ou une espèce prolifère depuis 5 ans. Il s'agit d'un coquillage, la corbicule.
En dessous de nous, là, il y a des corbicules partout. Elles tapissent, on voit surtout beaucoup de coquilles vides en fait, parce qu'elles vivent dans le sable.
Une espèce venue d'Asie, accrochée aux coques des bateaux.
Elles filtrent énormément, on sait qu'un seul individu, ça filtre 6 litres d'eau par jour. Donc quand on voit qu'il y en a des milliers, ça fait des litres importants d'eau qui sont filtrés chaque jour. Donc en fait, elles consomment le phytoplancton qui est présent dans l'eau. Ce qui fait que ça va baisser la productivité, ce qu'on appelle la productivité primaire du cours d'eau, c'est-à-dire le début de la chaîne alimentaire.
Des conséquences qui pourraient être dévastatrices pour le blavet et imposent donc une vigilance accrue.
Et voici ce reportage qui a été diffusé sur France 3 le 1er avril 2018. Quand on parle de ces espèces invasives, elles le sont parce que l'homme les a transportées ailleurs et en subit les conséquences. En général, c'est le procédé, Franck Courchamp?
Oui, une espèce invasive ou envahissante, c'est une espèce qui, premièrement, a été introduite dans un milieu dans lequel elle n'a jamais évolué, donc typiquement d'un continent à l'autre, par exemple, et qui ensuite a réussi à s'y établir, ce qui est souvent pas le cas, parce que l'écosystème n'est pas adapté pour cette espèce, mais quand elle réussit à s'y établir, parfois, elle va pouvoir s'étendre et s'intégrer dans l'écosystème et là poser des problèmes à l'écosystème parce qu'elle n'y est pas adaptée justement.
Et donc c'est ce qu'on entendait dans ce reportage avec ce coquillage.
Exactement. Il faut voir les écosystèmes un petit peu comme un système d'engrenage où tout fonctionne bien. Toutes les espèces sont liées les unes aux autres et tout fonctionne vraiment bien. Et puis en fait vous mettez un nouvel engrenage dans cette espèce d'horloge qui fonctionne depuis des millions d'années. En général, ce nouvel engrenage ne va pas pouvoir s'intégrer, mais s'il s'intègre, alors il va tout perturber.
Emmanuel Sarah, cet engrenage, c'est la mondialisation, hein, grandement responsable?
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'homme qui est au cœur de ce phénomène, puisque c'est lui qui, à l'origine, va transporter cette espèce et la déplacer donc de son aire d'origine à une aire introduite. Donc en fait, l'homme a toujours déplacé des espèces, depuis la nuit des temps. Mais depuis les 5 siècles derniers, il y a une augmentation des échanges. Il y a eu d'abord la découverte des Amériques. Donc là, on a commencé à échanger des espèces, notamment pour l'alimentation humaine. Et puis voilà, de fil en aiguille, on arrive à la révolution industrielle, puis à la mondialisation, donc l'accroissement des échanges, de plus en plus de transports de biens et de personnes. Et donc par exemple, en Europe, depuis les 35 dernières années, on a observé une augmentation de 76% des introductions d'espèces exotiques envahissantes.
François Moutou, il y a peut-être d'autres coupables aussi, de ces transferts et introductions, ou essentiellement c'est vraiment cette évolution de notre société moderne?
Oh, c'est vraiment l'évolution de la société, mais c'est très ancien en fait, comme le disait Emmanuel et comme Franck le sous-entendait. Mais imaginez que tout ce qu'on élève chez nous et qu'on cultive chez nous, pratiquement, vient d'ailleurs. Toutes les plantes que nous consommons, tous les animaux que nous consommons ou dont nous consommons les produits ne sont pas originaires de ce qui est maintenant la France sur la planète. Et donc d'un côté, c'était intéressant, mais forcément tout ce qu'on a mis a pris la place de ce qui était là avant, et parfois ça a été au détriment des écosystèmes d'origine. Et donc c'est vrai que avec notre commerce, avec le déplacement d'animaux, de plantes, on introduit toujours aussi leurs parasites, leurs virus, leurs bactéries. Et tout ça, ça se mélange et parfois ça fait des réactions assez surprenantes.
Franck Courchin ?
Alors ce qui est intéressant ici à évoquer, c'est ce qu'on appelle la règle des 10%. Il y a énormément d'espèces qui sont introduites et effectivement, on est bien content d'avoir de la pomme de terre, d'avoir du riz, d'avoir du maïs qui ne viennent pas de notre continent. Mais sur toutes ces espèces qui sont introduites, on a à peu près 10% qui va réussir à s'établir. Et sur ces 10% qui vont réussir à s'établir, on a à peu près 10% qui vont devenir envahissants.
Donc nuisibles, on les appelle aussi nuisibles ou invasives,
c'est ça. Envahissants, ça veut vraiment dire qu'il y a un problème. Le riz, la pomme de terre, il n'y a pas de problème. Mais 1% de ces espèces posent des problèmes. 1%, c'est pas beaucoup. Sauf qu'il y a des milliers d'espèces qui sont introduites tous les ans partout dans le monde.
Donc concrètement, Emmanuel Sarah, est-ce qu'on peut donner des chiffres, au moins à l'échelle de la France ou de l'Europe ?
On connaît un nombre d'espèces introduites en France, mais après, comme vient de le dire Franck, elles ne poseront pas toutes des problèmes, et donc elles n'auront pas toutes d'impact, donc elles ne seront pas toutes exotiques envahissantes. C'est pour ça qu'il faut vraiment revenir sur la base de cette définition.
La définition.
Donc on parle d'espèces exotiques envahissantes, puisque donc elle a été introduite par l'homme de façon volontaire ou involontaire, elle s'est implantée dans le milieu et elle a des impacts. Et donc, en Europe, on avait des estimations, donc il y a environ 15 000 espèces introduites. Et sur cette portion, donc, on retrouve la règle des 10% de Franck, il y en a 1500 qui vont poser problème et qui seront envahissantes. Au niveau français, donc, c'est l'inventaire du patrimoine naturel, l'INPN, qui a fait une première évaluation. Et donc les chiffres actuels, donc, ils recensaient 1379 plantes introduites et 708 espèces de faune. Mais c'est des chiffres qui sont largement sous-estimés, puisqu'il manque les espèces envahissantes marines, dont on n'a pas encore parlé. Donc là, il y a 1460 espèces qui sont estimées dans les eaux européennes, et pour la France, 483. Et il y a aussi toutes les espèces présentes dans les outre-mer français, donc qui sont des milieux insulaires qui sont d'autant plus fragiles et confrontés fortement à cette menace. Et en outre-mer, on recense environ 400 espèces, et tous ces chiffres sont largement sous-estimés.
Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 3 le 6 septembre 2019.
À gauche, voici l'ambroisie, une graminée hautement allergisante qui peut provoquer des crises d'asthme. Le datura, ou herbe du diable, lui, c'est carrément un poison. Toutes deux sont ce que l'on appelle des espèces invasives. En se répandant, elles menacent la biodiversité autochtone. Ici, cette parcelle de tournesol est en partie irrécupérable à cause de l'ambroisie.
Quand on a de l'ambroisie dans le champ, pour l'agriculteur, c'est baisse de rendement, donc baisse de revenus.
Aux côtés des agriculteurs, les apiculteurs, eux aussi sont inquiets. Le tournesol, ainsi menacé, est indispensable à la production de miel.
C'est l'ambroisie et la datura, et là c'est de l'ambroisie, qui va condamner, sur le long terme, la culture du tournesol dans ce champ-là. Donc ça veut dire qu'on ne va plus avoir la ressource mellifère pour les abeilles par le tournesol si on n'arrive pas à limiter l'ambroisie sur le territoire.
Le plus simple pour la personne lambda, c'est dès qu'il voit un pied, c'est de l'arracher, de le sortir de l'endroit où il est, de le mettre le mus et le mettre dans une poche, poubelle, et de le jeter.
Quant au datura, c'est une autre histoire, bien plus toxique pour les abeilles, mais aussi pour les espèces herbivores. Cet agriculteur y a perdu 2 chevaux.
Ils avaient des pertes d'équilibre, ils ne tenaient plus debout, le vétérinaire est venu, le cœur commençait à lâcher, il a lâché, puis on l'a euthanasié. Voilà.
Là, on entend ces témoignages et on voit en quoi cette espèce est emblématique, hein, de ces EEE, espèces exotiques envahissantes. On peut peut-être s'intéresser à cette ambroisie. De quelle façon est-ce qu'on peut la mettre dans les espèces peut-être les plus problématiques en France, Franck Courchamp?
Alors, c'est une des espèces les plus problématiques parce qu'elle pose des problèmes un petit peu à tous les niveaux et des problèmes importants un petit peu à tous les niveaux. On a dit déjà que la différence entre une espèce exotique, c'est-à-dire qui vient d'ailleurs, et une espèce envahissante ou invasive, c'est qu'elle pose un problème. Elle a un impact. Ces impacts, ils peuvent être sur les écosystèmes, sur la biodiversité. Par exemple, le fonctionnement d'un écosystème peut ne plus être assuré. On a parlé dans ce reportage de la pollinisation des abeilles. Ça peut être aussi des problèmes de compétition d'une plante qui arrive et qui enlève les autres, des problèmes de prédation. Un autre type de problème, c'est les problèmes économiques. Et là, avec l'agriculture, on est en plein dedans parce qu'il y a un impact économique et donc les agriculteurs ont un manque à gagner. Et on a un troisième type de problème qui sont les problèmes sanitaires, qui sont les problèmes sanitaires pour l'homme ou pour les animaux domestiques de l'homme. Et l'ambroisie, là, on a vu, coche les trois cases.
François Moutou, une réaction peut-être, parce que là, effectivement, on ne pourra pas s'intéresser à toutes ces espèces. On a entendu les chiffres donnés par Emmanuel Sarah. Mais certaines, aujourd'hui, font l'objet de, on le voit bien, de reportages, parce qu'il y a préoccupation et prise de conscience aussi de tous ces handicaps et des impacts larges sur la société.
Oui, mais c'est intéressant comme exemple, parce que le tournesol vient d'Amérique du Nord, et l'ambroisie également. Et donc on imagine que là-bas, les plantes se connaissaient dans un écosystème différent. Et c'est difficile également d'imaginer qu'un champ de tournesol soit un écosystème naturel. C'est vraiment quelque chose qui est planté, qui est fait pour produire. Et donc on reconstitue dans des champs en Europe des situations assez uniques avec des plantes qui se sont connues ailleurs, mais dans des conditions extrêmement différentes. Et donc on bouleverse non seulement les endroits où les plantes se trouvent, mais également la façon dont elles se rencontrent, et ça multiplie de façon assez considérable les conséquences. Et en permanence, comme on change nous-mêmes les règles de fonctionnement des écosystèmes, toujours à notre profit, on est toujours dans des schémas qui déséquilibrent des anciennes relations qui étaient stabilisées sur des très très longues durées, et nous on veut des rendements extrêmement courts, extrêmement rapides, et c'est souvent un peu contradictoire par rapport au rythme de la vie elle-même.
Emmanuel Sarah, c'est vrai, on le comprend, ces espèces envahissantes, elles seraient en fait, et là c'est méconnu, elles seraient l'une des principales causes de l'érosion de la biodiversité au monde après la dégradation des habitats naturels.
Oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs évaluations et estimations au niveau mondial, et toutes considèrent les espèces exotiques envahissantes comme faisant partie des principales pressions qui vont s'exercer sur la biodiversité. Donc en fonction des milieux qu'on va analyser ou des méthodes d'évaluation qui vont être utilisées, elles sont systématiquement citées. Donc il y a 5 pressions au niveau mondial qui ont été identifiées sur la biodiversité. Donc la première, c'est la fragmentation et la destruction des habitats. La deuxième, ça va être la surexploitation des ressources. La troisième, la pollution de l'eau, de l'air et des sols. La quatrième, le réchauffement climatique, enfin les changements climatiques d'une manière générale. Et enfin, les espèces exotiques envahissantes. Alors cette évaluation, l'ordre de priorité en fait ou d'importance va changer en fonction des manières de calculer. Donc par exemple, si on se base sur les impacts des espèces exotiques envahissantes sur les espèces menacées, donc en prenant les résultats de la liste rouge mondiale de l'UICN, cette pression passe au troisième niveau. Et si on s'intéresse aux écosystèmes insulaires, là la pression espèces exotiques envahissantes est la première cause de perte de biodiversité dans les îles.
Et si on s'intéresse au nombre d'espèces qui ont disparu depuis les derniers siècles, elle est seconde au niveau mondial.
Tout à fait, les espèces exotiques envahissantes sont responsables de l'extinction de 40% des espèces menacées.
Alors, autre exemple de plantes envahissantes, la jussie, on écoute.
C'est devenu un rituel près de Mimizan, au bord du lac d'Oreillan. Ces bénévoles s'échinent à déraciner patiemment toutes sortes de plantes exotiques.
Allez, alors ici, un peu de tout. Hein. Jussie, myriophile du Brésil. Et de l'Égéria, celle qui reste bien au fond. Donc là, je plonge la main, je tourne autour. Il y a tout qui vient là. Ça fait 13 ans qu'on le fait. Et on la diminue, mais on ne l'élimine pas.
C'est une lutte acharnée dans les lacs du littoral landais. La plante n'est pas toxique, pas dangereuse. Mais elle gêne la navigation et les activités nautiques. Ressource majeure pour la région.
C'est le cauchemar de la région, ça.
Celle qu'on coupe ici par dizaines de mètres cubes s'achète en quelques clics sur Internet ou en magasin spécialisé. Nous y sommes allés en caméra discrète.
Je voudrais des plantes oxygénantes pour des bassins.
Donc, il faut avoir ce genre de plantes-là.
Ça, c'est de l'égéria.
Le commerçant n'est pas en faute. Cette plante n'est pas interdite. Elle est même spécialement vendue pour les aquariums et les bassins.
Ça pousse beaucoup, donc du coup, c'est pas mal.
Comment s'en défaire ensuite ?
Vous la déplantez, vous la mettez dans des sachets en plastique, vous nous la ramenez, il n'y a pas de souci.
D'accord.
Tant que vous ne les jetez pas dans la nature, il n'y a pas de problème.
Plus il y a d'activité humaine, plus il y a de modifications des berges par l'homme, effectivement, on crée des zones favorables à leur développement, elles s'installent, sans laisser aucune chance aux espèces indigènes.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, on entendait ce reportage diffusé sur France 2 le 8 juillet 2017. Et forcément, François Moutou, je me tourne vers vous, on sent qu'il y a aussi une nécessité de sensibiliser les consommateurs dans leur comportement.
C'est sûr. Alors, regardez un jardin. Déjà, on parle de jardin à la française par rapport à jardin à l'anglaise, sur la façon de présenter les choses. En France, c'est bien carré, rien qui dépasse, il n'y a pas une mauvaise herbe, entre guillemets, mauvaise, évidemment. Mais si vous regardez les plantes que les gens achètent pour décorer chez eux, et j'admets parfaitement que on mette des plantes dans son jardin pour le rendre plus joli, plus attractif, y compris pour la faune et la flore, qu'on pense être locale, presque tout vient de l'extérieur. Quand je dis extérieur, c'est hors d'Europe. Hors de France et bien sûr parfois hors d'Europe également. Et donc on a une tradition très ancienne de décorer avec des plantes qu'on a été chercher très loin. Et le muséum à Paris est plein d'explorateurs au cours des siècles qui ont découvert des plantes nouvelles, parfois très jolies, qui les ont rapportées. Et on les a distribués pour que les gens les mettent dans leur jardin. Mais un jardin à la française, c'est une façon de voir la nature extrêmement particulière. Et on peut même parfois suggérer que c'est pas du tout la nature, c'est autre chose. C'est une reconstitution intellectuelle et vraie, puisqu'on a planté des espèces. Mais il y a une démarche intellectuelle pour faire quelque chose à son image. Or, la nature, elle n'est pas à l'image de qui que ce soit. Elle est elle-même, pour elle-même. Et donc, on a des comportements culturels et qui, depuis que nous existons, consiste à transporter des plantes pour aménager autour de chez nous d'une façon qui nous convienne, qui nous plaise. Mais parfois, c'est contradictoire avec la nature d'origine et parfois même nous-mêmes à plus long terme.
Alors justement, c'est une question qui se pose quand même parce que, bien sûr, ces espèces invasives, elles concernent tout le monde et il y a aussi une responsabilité de chacun. On le voit là dans les comportements des consommateurs, dans l'envie d'avoir des espèces sauvages chez soi, y compris des animaux. Hein, ça pose la question des animaleries, on pourra en parler. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, sur ces chiffres un petit peu d'espèces, celles qui vraiment nous ont envahis à cause d'un comportement irresponsable de consommateurs et puis d'autres qui, à l'inverse, sont arrivés dans d'autres situations non volontaires, quoi.
Oui, en fait, il y a pas mal d'exemples dans chaque cas. Il y a effectivement des introductions volontaires, des introductions qui ont surtout eu lieu par le passé, lors de la colonisation du monde, où on a voulu recréer un petit peu la faune et la flore européenne dans les contrées qui étaient colonisées.
Et dans des jardins d'ailleurs qu'on faisait visiter, voilà. Les expositions aussi,
etc. On appelait ça des jardins d'acclimatation, parce qu'on essayait d'acclimater les espèces qu'on mettait dans ces nouveaux écosystèmes. Ensuite, il y a des introductions qui sont un petit peu entre volontaires et non volontaires, qui sont par exemple lorsque les gens rejettent leurs poissons d'aquarium ou leurs tortues de Floride ou lorsque des petits écureuils s'échappent de leur cage ou des perroquets, etc. Et puis, il y a les introductions complètement involontaires. On a parlé de coquillages qui sont collés sur les coques des bateaux. Il y a énormément d'espèces qui sont introduites de manière involontaire. Le rat est une très bonne illustration. Il a été introduit d'Asie, un petit peu partout dans le monde, il y a longtemps. C'est une des espèces envahissantes qui cause le plus de problèmes, à la fois pour la faune et la flore, en particulier dans les îles qui ne sont pas adaptées à ces espèces-là, pour l'agriculture, pour la santé humaine, etc.
Et on peut penser aussi au frelon asiatique, hein, arrivé en France en 2004 dans le Lot-et-Garonne, via apparemment l'importation d'un lot de poterie de bonsaï en céramique venu de la région de Shanghai par un horticulteur. Donc voilà. On imagine que l'horticulteur, c'est pas volontairement qu'il a fait venir le frelon asiatique. Hein.
Et on a pu remonter grâce à la génétique et savoir exactement d'où venait cette reine, qui était une reine fécondée. Donc c'est un seul individu qui est à l'origine de ce qui est la plus rapide invasion terrestre au monde. Donc en quelques années, la France quasiment en entier a été envahie. Maintenant, plusieurs pays d'Europe sont envahis. L'Angleterre commence à l'être également, juste à partir d'une seule introduction d'un seul individu.
Donc le frelon asiatique, il reste un grave danger quand même pour la santé, ou on en est un petit peu revenu ?
C'est un problème pour les gens qui sont allergiques. Pour eux, c'est aussi un problème de se faire piquer par une guêpe. C'est un petit peu stressant parce que c'est des animaux qui sont beaucoup plus gros que des guêpes. Ils sont pas plus agressifs. Par contre, c'est des animaux qui sont prédateurs d'abeilles domestiques et prédateurs de pollinisateurs sauvages et qui posent donc des problèmes à la fois à l'apiculture, mais aussi à la pollinisation en général, que ce soit sauvage pour les écosystèmes ou pour l'agriculture. Faut pas oublier que 80% de notre agriculture est fécondée par des pollinisateurs.
Alors, dans le genre, on peut penser aussi aux moustiques tigres. Emmanuel Sarah, donc, sur ces questions, justement, de ces espèces qui nous envahissent et de la responsabilité aussi de nos comportements.
Alors, le moustique tigre, effectivement, c'est un bon exemple, puisque donc, il a été introduit, donc, de façon accidentelle dans le sud de la France, il y a quelques années, dans la région de Menton. Et puis voilà.
Et aujourd'hui, on le retrouve dans 58 départements, je crois.
Tout à fait. Et puis, ben, on a des cas autochtones de dengue, de chikungunya, donc voilà, qui inquiètent un petit peu les autorités sanitaires. Et effectivement, voilà, la lutte contre ce moustique est compliquée, puisque ça implique d'impliquer les citoyens pour éviter qu'il y ait des soucoupes de pots de plantes qui traînent. Enfin, partout où l'eau peut rester, le moustique peut se développer. Donc, il y a aussi des gestes citoyens à mettre en place autour de son habitation pour limiter l'expansion de ce moustique.
François Moutou, vous avez, je crois, travaillé aussi sur les nouveaux animaux de compagnie. Hein. Alors, on pense au tamia de Sibérie, ce petit écureuil, hein, qui est une espèce hôte, on peut dire, hein, porteuse de la maladie de Lyme. Ça pose cette question de nos relations avec ces espèces sauvages au plus haut point, quand même, avec les impacts ensuite sanitaires.
Oui, alors c'est sûr que les gens qui achètent des animaux, et maintenant il y a un commerce par Internet qui est absolument pas maîtrisé, qui est absolument hallucinant, y compris d'espèces totalement protégées, interdites, et ça se fait, et on n'a pas vraiment les outils pour l'empêcher. Et donc ces petits écureuils qui sont certainement bien mignons quand ils sont dans une cage, mais qui sont peut-être pas faits pour ça non plus, ont fini par s'échapper de temps en temps, et on a une population en forêt de Sénart qui a été bien étudiée par des collègues du muséum, et on s'est rendu compte que dans la forêt de Sénart, les écureuils jouer un rôle excellent pour les tiques qui sont porteuses de la bactérie de la maladie de Lyme. Et les petits rongeurs indigènes comme le mulot sylvestre ou le campagnol roussâtre sont porteurs parfois de quelques dizaines de tiques, ce qui est déjà pas si mal quand on imagine la taille de l'animal. Mais les écureuils qui sont à peine plus gros, on a trouvé jusqu'à 300 tiques sur un seul écureuil. Donc on imagine le potentiel d'alimentation que ça représente pour ces tiques. Et potentiellement derrière, donc les tiques se nourrissent lorsqu'elles sont nymphes sur des écureuils, elles muent ensuite, elles retournent par terre et elles attendent l'hôte suivant, qui peut être un humain qui se promène un dimanche après-midi. Et on peut expliquer une partie de l'incidence croissante de cette maladie en France, entre autres dans les zones où les écureuils de Corée ont été relâchés, par leur excellent pouvoir de multiplication, d'alimentation d'abord et de multiplication des tiques, qui sont les vectrices de cette maladie. Donc on a des conséquences vraiment indirectes et vraiment non prévues qui sont liées à l'importation de ces animaux. Et je ne parle pas des animaux qu'on introduirait directement avec des agents pathogènes dans leurs organismes.
Alors, autre cas justement d'animal introduit, hein, enfin par les hommes, mais qui d'abord répondait à un but industriel, hein, le ragondin. Écoutez ce reportage diffusé sur France 3 le 1er avril 2018.
Introduit en France au début du XXe siècle, le ragondin était élevé pour sa fourrure. Quand l'industrie s'est effondrée, ces animaux ont été relâchés dans la nature. Depuis, ils ne cessent de croître.
Deux ragondins, au départ, en 2 ans, peuvent en donner 90. Donc ça a une capacité de reproduction très très importante.
Face à cette situation, les collectivités s'organisent pour distribuer des pièges. Il y a 15 ans, 1000 ragondins étaient capturés. Aujourd'hui, le chiffre s'élève à 10 000, selon la direction départementale des territoires et de la mer.
On a quelquefois ce phénomène des gens qui sont dans les milieux un peu urbains, qui sont un peu anti-chasse, ou qui ont une vision un peu angélique de la faune sauvage, qui ont du mal à comprendre que des animaux sont classés nuisibles et qu'on peut d'une part chasser en période de chasse et détruire tout le reste de l'année. Mais il faut bien voir, effectivement, comme on est sur un territoire anthropisé, que si on ne faisait pas ça, on aurait des grands déséquilibres. Aussi bien au niveau de biodiversité, mais aussi au niveau des activités agricoles.
Emmanuel Sarah, le ragondin nécessite que l'on réagisse et que, justement, on mette en place des systèmes pour contrer la prolifération.
Alors le ragondin, effectivement, c'est une espèce classée nuisible qui cause des dommages sur l'agriculture, sur les infrastructures aussi, par le creusement dans les berges et dans les digues. Donc ça, c'est un coût important pour les réparations. Et puis, il va avoir aussi des impacts sur le milieu en dégradant les berges et l'écosystème aquatique. Et le ragondin, effectivement, il y a des enjeux de perception qui sont autour de cette espèce, hein, un petit peu. Effectivement, il y a une petite opposition entre le grand public qui vit dans les villes et le grand public qui vit à la campagne. Donc à la campagne, il est considéré comme nuisible et le piégeage ne choque pas spécialement les citoyens. Et dans les villes, voilà, c'est une espèce avec un capital sympathie qu'on peut nourrir dans les parcs, voilà, les familles viennent les voir, etc. Et donc là, il y a sans doute plus d'opposition à sa gestion que dans les milieux de campagne.
Franck Courchamp, vous êtes probablement face à ce genre de dilemme aussi, parce que il faut quand même préciser que vous, au sein donc de votre unité de recherche, vous avez monté une équipe et que vous êtes presque devenus les uns les autres des profilers hein, de ces EEE, espèces exotiques envahissantes. Voilà, comment intervenir, c'est quand même la question.
C'est un gros problème parce que c'est une cause de perte de biodiversité qui est très spécifique. Les gens comprennent très bien que la déforestation, ça pose des problèmes directement à toutes les plantes et tous les animaux qui vivent dans ces plantes. Les gens comprennent très bien que lorsqu'il y a du réchauffement climatique, les espèces peuvent être affectées directement. Quand il y a de la pollution, que ce soit par le mazout ou par le plastique, c'est aussi un problème relativement simple à comprendre. Lorsqu'il y a une invasion biologique, c'est quelque chose de non seulement plus compliqué à comprendre, d'abord parce que, comme on l'a dit, il y a énormément d'espèces différentes. Ensuite, c'est contre-intuitif parce que si on veut protéger la biodiversité, on doit s'attaquer à une partie de cette biodiversité, celle qui a été mise là où elle ne devait pas être. C'est assez facile de voir les espèces envahissantes comme des mauvaises espèces, mais en fait, elles sont autant victimes que les espèces qui vont souffrir de ces invasions. Si on prend l'exemple du wison, par exemple, d'Amérique, qui est introduit en Europe et qui fait s'éteindre partout où il arrive le wison européen, ou si on prend l'exemple de l'écureuil d'Amérique aussi, qui fait s'éteindre l'écureuil roux en Angleterre et puis maintenant en Italie, là où il a été introduit, on voit bien que en fait, il n'y a pas un méchant et un gentil. Un écureuil gris, c'est pas plus méchant quand ça arrive en Europe que quand c'est aux États-Unis. Par contre, on a deux victimes. On a l'écureuil gris qui est balancé dans un système qui ne lui appartient pas et qui, avec lequel il n'a pas évolué. Et on a l'écureuil roux qui va souffrir de la compétition avec l'écureuil gris. Une compétition directe parce que l'écureuil gris se rappelle mieux de où il a trouvé, où il a mis ses noisettes, etc. Et aussi parce que il est porteur sain d'un virus qui va affecter plus les roux. Maintenant, l'écureuil gris, il est un peu moins timide. Et il va être plus facilement nourri par le public dans les parcs. Donc évidemment, les gens n'ont pas envie de détruire l'écureuil gris, qui est mignon et qu'on peut nourrir. Et souvent, c'est un peu compliqué de faire comprendre qu'il vaudrait mieux tuer une centaine ou un millier d'écureuils gris plutôt que de perdre totalement les écureuils roux qui n'existent qu'à cet endroit et qui ne peuvent pas être ailleurs. Et c'est donc une balance entre des individus d'un côté et une espèce de l'autre, et c'est une échelle de valeur qui ne fonctionne pas avec tout le monde.
Et comme le disait François Moutou tout à l'heure, c'est que finalement l'homme aussi a perturbé ces écosystèmes qui existaient très bien et qui fonctionnaient très bien ailleurs, mais en prélevant une espèce et en l'intégrant dans un autre environnement, un autre écosystème, ces écosystèmes ont besoin d'un temps long, j'imagine, pour retrouver ou un équilibre. Et là où les hommes, en fait, avec leur propre économie, les conséquences des impacts n'ont pas non plus ce temps long, c'est ça?
Oui, parce qu'une colonisation d'une espèce dans un autre écosystème, c'est un phénomène naturel, mais c'est un phénomène qui arrive tous les 10 000 ou 100 000 ans. Si on a plusieurs centaines d'introductions tous les ans à un certain endroit, évidemment, on va avoir beaucoup de dégâts, parce qu'en général, lorsqu'une espèce arrive, si elle arrive à s'établir, la nature ayant horreur du vide, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de niche écologique vide dans laquelle elle peut aller. Elle va forcément prendre la place de quelqu'un d'autre, partiellement ou entièrement. Et entièrement, ça veut dire qu'elle va éliminer l'espèce locale en prenant sa place. Si on a énormément d'espèces envahissantes, alors on a énormément de pertes de biodiversité locale. Et souvent, c'est aussi de la biodiversité entière qui disparaît globalement. Je vous donne un exemple très simple. Si on introduit des chats dans les îles un petit peu partout, ce qui a été fait depuis des centaines d'années, volontairement ou involontairement, les chats vont constituer une espèce supplémentaire dans l'île. Donc ils augmentent la biodiversité. Seulement, ils vont détruire énormément d'espèces d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens. Et donc là, ils vont aussi faire baisser la biodiversité. Seulement, les chats, ils existent partout dans le monde. Donc la biodiversité, même si elle a augmenté d'une espèce dans toutes ces îles, elle n'a pas augmenté globalement. Et ces espèces qui n'existaient que dans des îles, elles ont disparu de ces îles et dans le monde en entier. Et donc globalement, on a une perte de biodiversité, même si parfois, avec beaucoup d'introduction d'espèces, on peut avoir une augmentation d'un autre côté. Globalement, on est toujours perdant au niveau de la biodiversité.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love.
C'était U2, One, en hommage au professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, vous l'aurez compris, à la liberté d'expression, à la liberté d'enseigner, à la diffusion des connaissances pour devenir des citoyens de la République au pays des Lumières. Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? Quant aux choix musicaux de nos invités, ils sont à retrouver bien sûr sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, dans le cadre de cette émission, je le rappelle, qui prend place dans la coalition hashtag Sauver le Présent, une coalition qui réunit une fois par mois plusieurs médias, France Culture, Le Parisien aujourd'hui en France, la revue Ouzbek Erika et Science et Vie Junior. Et nous nous intéressons ce mois-ci aux espèces dites invasives et à leurs impacts. Dossier complet à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Et nous sommes toujours en compagnie de Emmanuelle Sarah, coordinatrice du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes de l'UICN, Franck Courchamp, écologue, directeur au CNRS, au laboratoire d'écologie systématique et évolution de l'Université Paris-Sud, auteur notamment du livre « L'écologie pour les nuls » et puis la bande dessinée « La guerre des fourmis » paru aux éditions des Équateurs. Et avec nous, en liaison téléphonique, François Moutou, docteur vétérinaire, épidémiologiste, naturaliste, ancien directeur adjoint du laboratoire santé animale de l'ANSES, et je cite François Moutou, votre dernier livre, Des épidémies, des animaux et des hommes, paru aux éditions du Pommier. Mais tout de suite, direction la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média. Bonsoir Rémi Barou.
Bonsoir.
Vous êtes notre œil du monde Planète et votre choix s'est porté sur une infrastructure, un futur chantier de contournement de deux villages en Haute-Loire. Alors c'est un dossier vieux de 30 ans, mais visiblement les travaux pourraient démarrer prochainement.
Oui, il y a eu l'autorisation et le résultat de l'enquête publique qui était favorable. Et puis le nouveau préfet, va sûrement dans les jours qui viennent, peut-être, signer un arrêté autorisant le démarrage du chantier. Mais la signature est quand même compliquée parce que ce dossier est complexe. Il est simple si on part du principe que 14 000 véhicules qui traversent deux petits villages de quelques centaines d'habitants au pied du suc du Pertuis, donc en Auvergne, juste à côté du Puy-en-Velay, c'est juste impossible pour les habitants. C'est-à-dire c'est de la pollution, c'est du bruit, un peu de risque. Il y a quand même 14 000 véhicules, donc 10% de camions. C'est énorme. Et vraiment, la route nationale 88 à cet endroit traverse au cœur de ces villages. Et puis, il y a l'autre point de vue, c'est-à-dire, faut-il détruire 140 hectares de terres, de prairies, de zones humides avec des espèces protégées pour construire un immense contournement, une 4 voies qui fera 10 km à l'extérieur de ces deux villages? Les arguments s'affrontent durement. Les opposants défendent évidemment l'environnement et surtout, ils partent du principe que ce projet est un projet ancien, issu d'un autre monde, alors que on réfléchit notamment avec la Convention citoyenne pour le climat à changer de modèle économique. Le gouvernement nous dit que le modèle économique doit changer, évoluer. Faut-il encore construire des voies pour accélérer alors que, disent les opposants, il faut apprendre à ralentir, il faut arrêter d'artificialiser les terres.
Rémi Barrou, les deux camps s'opposent, mais ils développent aussi, et l'un et l'autre, des arguments sensés. C'est donc difficile de trancher.
Difficile de trancher parce que de deux côtés, il y a des arguments environnementaux, des arguments sanitaires, des arguments de pollution. On peut évidemment, même les opposants à ce projet de contournement des deux villages et de la future quatre voies qui va notamment obliger à construire un pont sur 300 mètres pour traverser une rivière avec des pare-feux, avec des aménagements paysagers. Ça va être un très très gros chantier quand même de 250 millions qui sera financé à près de 90% par la région qui tient énormément, le président Laurent Wauquiez, et il tient énormément à ce projet. Et c'est vrai que les arguments s'affrontent, mais les opposants disent donc que, évidemment, il faut enlever les camions et les voitures des deux villages. Ils ne prêchent pas l'idée qu'il faut maintenir ce trafic. Ils pensent d'une part qu'il faut réduire le trafic tout court, c'est-à-dire favoriser les transports en commun, éviter qu'il y ait en effet ces camions de fret. La RN 88 part de Toulouse et va jusqu'à Lyon, donc c'est un axe important nord-sud. Et du coup, ils disent on peut aussi travailler sur des petits aménagements, c'est-à-dire faire des petits contournements autour des villages, travailler peut-être éventuellement sur de l'enterré, du souterrain pour passer sous le cœur du village, mais en tout cas pas faire cet immense contournement, cette quasi-autoroute qui passera dans ce magnifique paysage des sucs volcaniques auvergnats.
Est-ce qu'on peut craindre, Rémi Barrou, une nouvelle ZAD ?
Oh, on n'en est pas là. D'abord, il faut que le préfet signe l'arrêté, que les travaux démarrent. Il y aura de nombreux recours juridiques, d'où d'ailleurs la prudence du préfet qui ne veut pas que cet arrêt futur autorisant le démarrage des travaux soit condamnable par la justice. Donc il prendra beaucoup de précautions s'il signe cet arrêté. Et puis surtout, avant même d'envisager une action physique contre l'éventuel démarrage du chantier, je crois que les opposants espèrent énormément en la défaite de Laurent Wauquiez et de la majorité actuelle dans la région aux futures élections. Parce que ce projet est vraiment soutenu par Laurent Wauquiez, y compris à l'intérieur des parlementaires, des conseillers régionaux. Il y en a qui dénoncent cette somme folle investie juste pour un projet qui concerne le département de Laurent Wauquiez, la Haute-Loire et sa ville, le Puy-en-Velay.
Et vous suivrez bien sûr, Rémi Barrou, ce dossier plus avant au fil des mois et peut-être des années. Merci à vous.
Merci.
Et toutes les informations, à bientôt. Mais toutes les informations sur ce sujet et sur votre article, bien sûr, sont à retrouver sur notre site et sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Elle se cache dans vos draps, dans votre matelas, dans le moindre recoin de votre maison. Ce sont les punaises de lit. Un fléau devenu le cauchemar de Yona Briand.
Mais plus chez nous. On a dû jeter tous les meubles parce que les bêtes sont rentrées partout. Dans le lit et tout, c'était infernal, vraiment.
La punaise ne fait que quelques millimètres, mais elle provoque des démangeaisons sévères. Et difficile de se débarrasser du parasite. Il faut d'abord le débusquer. Ensuite, le professionnel applique un traitement chimique.
Pulvérisation sur tous les sols de la maison. Et ensuite, on met un gaz qui va aller traiter dans le moindre recoin pour aller débusquer les punaises et les éliminer.
Les punaises de lit sont en train d'envahir la France. 540 000 sites traités en 2019, trois fois plus qu'il y a deux ans. Même les biologistes peinent à trouver des solutions. En laboratoire, ces punaises sont mises au contact d'un insecticide pendant 10 minutes. Mais rien n'y fait.
C'est un énorme problème parce que plus on utilise d'insecticides et plus on sélectionne des souches résistantes et moins on pourra lutter avec les insecticides.
Face aux punaises, le gouvernement lance aujourd'hui un numéro dédié et un site internet pour enseigner les bonnes pratiques.
Voilà, ces punaises de lit, je ne sais pas si les uns les autres, vous avez des informations peut-être supplémentaires à nous donner. En tout cas, un enfer, on le comprend, ces punaises qui envahissent le territoire. François Moutou, une réaction peut-être sur ces espèces, justement, mais qui sont tellement nuisibles au quotidien, dans la vie au quotidien, qu'elles en deviennent un enfer.
Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais on redécouvre une certaine biodiversité qu'on avait un peu oubliée parce que, en fait, ma génération et les générations qui suivent, et peut-être une ou deux avant moi, nous sommes peut-être les premières à pouvoir avoir vécu pratiquement sans parasite interne, voire sans parasite externe. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau à l'échelle de l'espèce humaine. Et si on lit un peu les textes du 19e et avant, quand on lit les romans, la façon dont les gens racontent ce qui se passe, on a quand même l'impression qu'ils étaient assez souvent ennuyés par ce genre de bestioles, les puces, les poux, les punaises. Et simplement, avec des mesures d'hygiène, avec une économie différente, avec sans doute un peu de chimie aussi, on a réussi à s'y débarrasser. Et moi, j'ai souvenir d'avoir vu, il y a quelques années, les poux revenir à l'école, et ce qui semblait quelque chose de complètement démodé, ça devait plus se faire, ça devait plus arriver. On s'en était débarrassé au milieu du XXe siècle, et ça revenait. Et maintenant, ce sont les punaises, avec un certain nombre d'explications, comme beaucoup plus de voyages, beaucoup plus d'échanges, avec parfois des situations où les gens ne font pas toujours attention aux objets qu'ils vont rapporter chez eux, qui sont parfois riches en biologie, mais peut-être un peu trop. Et donc, c'est assez étonnant de voir ce retour et de réaliser que nos ancêtres ont vécu avec, et qu'aujourd'hui, dans la vie du 21e siècle, c'est quelque chose qui paraît complètement choquant. Mais peut-être que nous sommes aussi un tout petit peu ambitieux, pas assez modestes par rapport aux autres formes de vie, parce qu'il y a celles qu'on aime bien, celles qu'on n'aime pas. On a un peu tendance à voir les choses de façon extrêmement dichotomique, et c'est sans doute à nuancer de façon plus subtile. Il y a certaines petites bêtes de quelques millimètres qui savent nous le rappeler.
En tout cas, on se rend compte aussi quand même que ces nuisances ont un coût pour la société. Par exemple, je prends l'ambroisie, dont on a entendu un reportage dans l'émission. De plus en plus donc de cas d'allergie, donc un coût estimé à 40 millions d'euros pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes en 2018. Et pour la France, on estimait à 5,3 millions de Français touchés, donc on atteignait une facture de 330 millions d'euros uniquement sur le cas de l'ambroisie. Franck Courchamp, je crois que à l'échelle mondiale, ces coûts, on atteint 70 milliards de dollars par an pour les insectes, dont un dixième imputable aux frais de santé.
Donc ça, c'est uniquement pour un petit groupe d'espèces envahissantes, les insectes, parce qu'il y a évidemment tous les autres animaux et toutes les plantes. Et c'est uniquement une méta-analyse sur les coûts qui ont été publiés, donc des études scientifiques qui ont essayé de mesurer des coûts. Évidemment, il y a énormément d'espèces, même d'insectes, qui n'ont jamais été étudiées du point de vue des coûts. Même des espèces qui, étonnamment, sont très coûteuses. On sait qu'elles sont très coûteuses parce qu'elles ravagent les champs, par exemple, ou elles ravagent les forêts qui sont...
Elles détruisent les cultures, les perruches à collier, par exemple, les perruches noires,
oui, on peut là,
les
citer. Je parlais juste des insectes.
Ah là, les insectes, parce que oui, il y a tous les autres.
Bon. Donc, c'est-à-dire que si on regarde les 70 milliards de dollars juste pour les insectes, c'est uniquement pour une dizaine d'insectes qui ont été étudiés. Or, il y a des milliers d'espèces d'insectes qui sont problématiques au niveau des espèces envahissantes. Donc, ces coûts de 70 milliards de dollars par an, c'est très certainement une toute petite partie des coûts réels qui ne sont pas encore estimés.
Emmanuel Sarra, du coup, on se dit, mais est-ce qu'on peut parler d'un déni ou d'atonie des pouvoirs publics? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on est face à ces sommes, on se dit qu'il y aurait certainement moyen de réagir plus massivement. L'argent, c'est le nerf de la guerre.
Alors, en fait, ça fait un moment que les autorités internationales, on va dire, ont identifié cet enjeu à l'échelle internationale. Donc en fait, dès 92, la Convention sur la diversité biologique à Rio donc avait déjà identifié les espèces exotiques envahissantes comme une menace importante. Et elle y a d'ailleurs consacré un objectif d'Aichi. Et donc la France, qui est signataire de cette convention, s'est engagée donc à réduire les introductions d'espèces et à essayer de limiter leurs impacts au maximum. Et depuis, donc, c'est l'Union européenne qui a pris les devants et qui a donc publié un règlement en 2015. Donc c'est un règlement européen, c'est pas une directive, donc c'est quelque chose qui s'applique directement en droit français. Donc une manifestation assez forte de mettre des choses en place pour limiter ce phénomène. Et donc depuis 2015, on a un cadre d'action qui est proposé par l'Europe pour prévenir, réduire, essayer de minimiser les impacts de ces espèces. Ce règlement européen, il repose sur une liste de 66 espèces actuellement. Donc vous allez me dire 66 espèces sur les 1500 au niveau européen, c'est pas grand chose, mais c'est un début. Donc en fait, il faut savoir que cette liste, elle évolue en permanence. Donc la première liste en 2015, c'était 37 espèces, puis on en rajoutait 12, puis 19. Donc là, on a 66 espèces, donc des espèces de faune et de flore, tous milieux confondus, donc continentales, terrestres et quelques espèces marines. Alors ces listes, elles sont compliquées à élaborer parce qu'elles concernent l'ensemble des pays membres au niveau de l'Europe. Donc elles sont établies par des scientifiques qui vont réaliser des analyses de risque. Donc ils vont essayer d'apporter les preuves scientifiques des impacts et des conséquences que pourraient avoir ces espèces en Europe. Et puis ensuite, ce sont les États membres qui discutent entre eux, donc il y a pour parler, pour définir cette liste. Donc effectivement, on s'attend à de plus en plus d'espèces, mais c'est déjà un bon début.
Franck Courchamp.
Oui, alors c'est un bon début. On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je vais me faire l'avocat du diable puisqu'on a eu là le verre à moitié plein. On voit d'une part que on a mis 25 ans quasiment entre 92 et 2015 avant de faire quelque chose au niveau européen. Déjà, c'est pas très très rapide. Ensuite, on en est à 66 espèces. Pourquoi on en est que à 66 espèces? Parce que, comme l'a dit Emmanuel, les scientifiques doivent apporter la preuve qu'il y a un problème. Donc là, on est dans le cadre où le fardeau de la preuve, ce qu'on appelle le fardeau de la preuve, il est sur les scientifiques qui doivent démontrer qu'il y a un problème. Et non pas sur ceux qui vont importer les espèces, par exemple ceux qui importent du bois avec peut-être des espèces d'insectes qui détruisent le bois dans leur cargaison, qui devraient, eux, avoir à démontrer que dans leur cargaison de bois, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont fait une fumigation ou parce qu'ils ont fait une quarantaine, etc. Donc le fardeau de la preuve étant scientifique, c'est sûr que ça va beaucoup moins vite. Si on regarde l'Europe, on a 66 espèces parce qu'on a cette liste noire. Aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui sont beaucoup plus en avance que nous, on a des approches qui sont différentes, et notamment en Nouvelle-Zélande, on a des listes blanches. La liste blanche, c'est une espèce peut rentrer sur le territoire uniquement s'il a été démontré qu'elle ne peut pas poser de problème. Alors que nous, c'est le contraire. Une espèce ne peut pas rentrer sur le territoire si on a pu démontrer qu'elle posait un problème. Donc vous voyez là qu'on a une approche qui est complètement différente.
Oui.
Évidemment, c'est beaucoup plus facile pour la Nouvelle-Zélande qui est une petite île, qui est isolée, qui a une faune et une flore qui sont endémiques et qui vont souffrir beaucoup plus des invasions, et où tout le monde est au courant, du public aux politiciens.
Mais l'Angleterre, l'Australie par exemple, réagissent beaucoup mieux que les autres États.
Voilà. Alors qu'en Europe, qui est un carrefour de civilisation, qui est un carrefour de commerce, qui en France, il y a quand même 80 millions de touristes tous les ans, c'est-à-dire plus que de Français. On est le septième importateur de biens dans le monde. Donc évidemment, c'est beaucoup plus difficile de faire des listes blanches. N'empêche que on peut quand même aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Pour l'instant, on perd énormément d'argent parce qu'on introduit beaucoup trop d'espèces envahissantes.
Emmanuel Sarah.
Oui, puis il y a une autre difficulté également, c'est que pour démontrer les impacts, il faut faire des études scientifiques. Et en fait, quand on arrive à démontrer les impacts, l'espèce est déjà très présente et c'est déjà trop tard, puisqu'on sait que dans la gestion des invasions biologiques, plus on intervient de façon précoce, donc plus tôt l'espèce est détectée, plus ça sera facile de mettre en place des actions, moins ça coûtera et plus on sera capable d'endiguer le phénomène.
Je vous propose d'écouter ce dernier reportage diffusé sur France 3 Loire-Atlantique le 23 juin 2020.
2 à 3 seaux remplis d'écrevisses. C'est la récolte quotidienne de Fanny et Johan depuis une dizaine de jours. Avec les fortes pluies, ces crustacés originaires de Louisiane remontent les ruisseaux des marais de Goulaine et vont même jusque sur les routes et dans les jardins. Cette année, la quantité est particulièrement impressionnante.
Là, il y en a de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent les pêcher ici. Et tout le monde s'arrête d'ailleurs sur le pont à chaque fois qu'ils passent, ils voient les écrevisses. Mais sinon, ça vient par centaines, même par milliers, je dirais. On peut les prendre avec une épuisette, on en attrape 150 d'un coup, il n'y a pas de problème.
Les carnassiers, herbivores et carnassiers en même temps. Les œufs de brochet, les œufs de grenouille, tout ça, ben, ça mange tout ça, ça détruit tout ça. On veut pêcher le brochet au vif. On met un petit vif à l'hameçon pour pêcher le brochet. Et ben, au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus de vif, il est tout bouffé. C'est du crevice, ça bouffe les vifs.
Au lac de Grandlieu, les crustacés de Louisiane font presque partie du paysage. Après 20 ans de présence, les écrevisses causent toujours autant de dégâts.
Ce qu'on a observé depuis qu'elle a envahi Grandlieu, c'est quand même une régression de la végétation qui est très importante, notamment toutes les végétations aquatiques, notamment en périphérie du lac, là où elle est la plus présente. À l'inverse, il y a des organismes, des grands prédateurs, comme la spatule, comme la grande aigrette, comme un certain nombre de hérons, qui se sont bien adaptés à sa présence. C'est devenu une proie phénoménale pour toutes ces populations.
Chaque année, les pêcheurs capturent plusieurs tonnes d'écrevisses dans le lac de Grandlieu, mais la législation empêche de les transporter vivantes en dehors du département. Compliqué alors de travailler avec des restaurateurs. La seule alternative, la cohabitation avec les nuisibles.
Eh oui, peut-être que dans certains cas, il faut accepter aussi que l'on ne pourra pas tout maîtriser et qu'il reste à cohabiter. Qui veut réagir sur cette question des écrevisses de Louisiane, Franck Courchamp?
Alors, nous, on peut cohabiter avec. Les écrevisses locales, elles peuvent pas cohabiter avec. À chaque fois qu'il y a une invasion d'écrevisses dans le monde, et il y a pas mal d'espèces envahissantes dans le monde, d'écrevisses, les espèces d'écrevisses locales, elles disparaissent parce qu'elles, elles ne peuvent pas cohabiter.
Emmanuel Sarah et ensuite François Moutou.
Oui, tout à fait, pour compléter les propos de Franck, les écrevisses américaines et l'écrevisse de Louisiane particulièrement sont porteuses saines d'une maladie qu'on appelle la peste des écrevisses qui se transmet à nos écrevisses autochtones, une maladie qui est mortelle pour elles. Et ce sont des espèces qui sont d'autant plus menacées par la destruction des milieux, la surpêche, etc. Donc, des impacts multiples qu'il faut prendre en compte.
François Moutou, on a illustré grandement, hein, mais en même temps on est loin des mille et quelques espèces. Hein, dans l'émission, c'était difficile de nourrir toute cette question et toutes ces informations. Acteur et coordination des actions à mener, surveillance, système d'alerte, biosécurité, on entend parler de ça aussi. Pour pouvoir réagir, prévenir les risques de contamination, de pollution de l'environnement, d'appauvrissement de la biodiversité. Je sais que vous êtes aussi très concerné et vous avez beaucoup travaillé sur les zoonoses. Hein, et on est aussi dans ces questions-là. Comment agir? C'est quoi quand on parle de biosécurité, par exemple, et puis de système d'alerte?
La biosécurité, ça serait ne pas introduire d'animaux ou de plantes avant d'avoir testé le portage éventuel par des parasites, par des bactéries, par des champignons, par des virus. Et ensuite, les systèmes de surveillance, ça serait des systèmes qui, avec des points de capture d'informations répartis de façon pertinente sur le territoire, seraient capables de signaler une anomalie par rapport à un bruit de fond qui serait qualifié de normal et qui permettrait de réagir assez précocement sur quelque chose de nouveau, d'inhabituel, et qui permettrait de doser une réponse. Peut-être ça serait le début d'une invasion, mais au tout début, c'est beaucoup plus simple à maîtriser que si on est vraiment submergé par la vague qui arrive. Mais ça, ce sont des choses dont on parle beaucoup et qu'on a un peu de mal à mettre en place. Et on a toujours cette ambiguïté par rapport au commerce. Alors, dès qu'on veut mettre des mesures de précaution, on va contre le commerce. Et comme le commerce, pour l'instant, c'est toujours un peu ce qui guide le monde, on est dans des situations, oui, très paradoxales. Et quelquefois, le paradoxe va jusqu'à non seulement ne pas trop anticiper, mais finalement, on gagne de l'argent à lutter contre la pollution, contre le problème. Et donc, c'est vraiment des situations qui ne sont pas durables à très long terme. Donc, c'est vraiment une façon nouvelle de voir les choses, et sans doute un peu plus saine que d'attendre le problème pour trouver la réponse. Et je ne pense pas que la technique pourra indéfiniment nous résoudre tous nos problèmes que nous créons nous-mêmes régulièrement.
Franck Courchamp.
Oui, c'est aussi un problème d'efficacité. C'est-à-dire que lorsqu'on a des problèmes d'invasion, on peut gérer ça de deux manières. La gestion classique, qui est d'essayer de contrôler les espèces, de les éliminer, qui est souvent très compliquée lorsque cette espèce s'est déjà établie, surtout sur des grands espaces. Et puis, il y a la biosécurité, qui ne concerne pas seulement les pathogènes, mais qui concerne les espèces elles-mêmes, qui est liée à la mise en quarantaine, par exemple, des cargaisons, ou la vérification dans les ports d'entrée, qu'il n'y a pas des espèces qui sont en train d'arriver, la surveillance aux alentours, qu'il n'y ait pas des points d'établissement. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que le coût économique de la biosécurité est très, très inférieur, plusieurs dizaines de fois inférieur au coût de la gestion. Et le coût de la gestion est très très inférieur, plusieurs dizaines de fois encore inférieur, aux dommages économiques qui sont faits par les espèces envahissantes. Donc il vaut mieux gérer ces espèces envahissantes que d'en subir
mettre
les dégâts.
Mettre un maillage, un système de surveillance, d'alerte.
Et il vaut mieux faire de la biosécurité, les empêcher d'arriver plutôt que de les gérer.
Emmanuel Sarah, sur ces questions?
Alors, sur les questions de biosécurité, on voit qu'elles peuvent s'appliquer en fait au point d'entrée hein, de ces espèces. Donc, finalement, ça va être les services douaniers hein, qui vont avoir une responsabilité pour ces contrôles-là. Mais le citoyen peut aussi jouer un rôle dans la prévention de ces invasions. Donc, par exemple, quand on pratique des activités en milieu aquatique, quand on va pêcher ou quand on va faire du canoë, par exemple, il faut faire attention à bien nettoyer son matériel quand on quitte un cours d'eau. Donc, vérifier qu'on n'embarque pas avec soi des morceaux de plantes ou des œufs d'écrevisses ou des larves d'espèces qui peuvent être dans les milieux aquatiques pour ne pas recontaminer les sites qu'on va fréquenter après. Donc ça, c'est des gestes qui sont connus des citoyens, bah, par exemple en Nouvelle-Zélande et qui commencent à se développer en Angleterre. Mais en France, on commence un peu à réfléchir à ça, mais ça reste vraiment très embryonnaire.
Alors, est-ce qu'avec le réchauffement climatique, on a d'autres craintes peut-être qui peuvent surgir, des cas à venir que vous redoutez les uns les autres, Franck Courchamp?
Alors, c'est pas qu'on les redoute, hein, c'est qu'on les a prévus déjà. Il y a des prédictions très quantitatives qui montrent que, avec les hivers par exemple qui s'adoucissent, on a des barrières thermiques qui sont levées et des espèces qui n'auraient pas pu passer l'année, notamment d'insectes, parce que les insectes sont des animaux à sang froid, donc ils dépendent de la température extérieure. Des espèces qui n'arrivaient pas à s'établir avant, maintenant vont réussir à s'établir beaucoup plus dans le nord, et on sait que l'invasion du moustique tigre, les invasions de fourmis, les invasions de plein d'autres insectes, ceux qui détruisent l'agriculture ou les forêts en gestion, sont en train de remonter vers le nord et vont poser de plus en plus de problèmes au fur et à mesure que le climat change.
Emmanuel Sarah, je crois que vous vouliez parler quand même d'espèces marines, on peut en trouver là dans ce cas-là, qui réagissent aussi à ce réchauffement climatique?
Alors oui. Oui, d'autant plus que les espèces marines, elles sont encore plus compliquées à contrôler puisqu'elles sont dans un milieu très dispersif. Donc voilà, une fois qu'elles sont arrivées, c'est difficile de faire quelque chose. Donc on peut penser par exemple au poisson luant en Méditerranée, hein, donc qui est originaire de l'océan Indien, qui est arrivé par le canal de Suez en Méditerranée et qui petit à petit voilà, trouve des milieux favorables. Donc là, il est très présent à Chypre. Il commence à arriver en Méditerranée, donc à surveiller. Et il pose également problème dans les Antilles. Là, la prévention est vraiment de rigueur, puisqu'une fois qu'elle est implantée, c'est très compliqué d'intervenir.
Alors moi, j'ai entendu parler d'un ver, mais je ne sais pas si c'est en lien avec le réchauffement climatique, le fameux ver plat, qui serait tueur de nos vers de jardin. Alors, il faut expliquer aux auditeurs, hein, il s'appelle l'Obama Nungara, signalé depuis 2013 en France, désormais dans 72 des 96 départements français. Alors, le problème, c'est qu'il ne creuse pas de galeries, donc il éradique les vers de jardin qui, eux, sont essentiels pour la biodiversité et pour la terre. Et donc, lui ne creuse pas de galeries et donc n'a pas de travail utile. En tout cas, c'est une espèce qui est présente au Portugal, au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique, arrivé là par le commerce de plantes en pot. Est-ce que ce ver-là, c'est aussi en lien avec le réchauffement climatique ou pas du tout? On est vraiment dans le cas typique d'une espèce envahissante.
Alors, il n'y a pas eu d'études spécifiques à ma connaissance sur ce ver-là dans le cadre du changement climatique. Mais évidemment, moins les sols sont froids et plus c'est favorable à la survie, la reproduction, l'activité et la dispersion de la plupart des invertébrés terrestres. Donc évidemment, il y a des fortes chances pour que ce soit lié.
François Moutou, le mot de la fin sera pour vous, donc sur ces questions-là, aussi biodiversité, santé, amis ou ennemis, on peut poser aussi cette question finale.
Bah écoutez, on va voir, enfin, c'est clair que les choses changent, il n'y a plus de questions, on découvre régulièrement des nouvelles situations, donc il y a des choses du sud qui montent. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on va avoir des hivers moins froids qui seront sans doute moins des freins à pas mal d'invertébrés. Inversement, je me demande si les sécheresses de l'été vont pas avoir quelque part des impacts peut-être positifs, parce que on n'est pas habitué dans nos climats tempérés à avoir la sécheresse qu'on commence à voir certaines années à certains endroits. Est-ce que l'un va compenser l'autre? C'est difficile de jouer là-dessus. Mais à force de jouer à la roulette, parfois on gagne. Et là, en ce moment, vu qu'on joue assez souvent et de plus en plus régulièrement, on va avoir des surprises. Au niveau sanitaire, je pense que mes collègues qui travaillent toujours, là, ils vont être, parce que moi je suis à la retraite, hein, ils vont avoir de plus en plus de situations nouvelles à découvrir. Et ça va peut-être être intéressant d'un point de vue professionnel, mais peut-être moins drôle d'un point de vue sanitaire.
Et oui, parce que quand vous parlez de cette roulette, hein, vous pensez bien sûr à la pandémie de Covid-19, on imagine. Hein.
Par exemple.
Et oui. Par exemple. Merci à tous les trois. François Moutou, je rappelle le titre de votre livre, hein, Des épidémies, des animaux et des hommes, paru aux éditions du Pommier. Franck Courchamp, L'écologie pour les nuls, paru chez First. Et puis la bande dessinée La guerre des fourmis, paru aux éditions des Équateurs. Et Emmanuel Sarah, je précise que tout ce qui concerne l'UICN, vos travaux, c'est à retrouver sur les liens, bien sûr, sur notre site d'émission. Il y a peut-être un livre à citer?
Non, alors juste un site internet, donc le centre de ressources a un site internet. Et pour préciser que c'est un dispositif que nous copilotons avec l'Office français de la biodiversité.
Et comme toujours, bien sûr, pour les auditeurs, les informations, la bibliographie, les liens sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute à votre disposition. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, et sur la page Facebook. Mardi prochain, à l'aube du Vendée Globe, eh bien, nous nous intéresserons à l'état de l'océan et nous serons notamment avec Fabrice Amadeo et Charles Berling. Dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture avec dans quelques minutes le journal de la rédaction.